France Inter. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Trop de sucre dans notre alimentation et de plus en plus de diabétiques. Plus de 4 millions de personnes. Le diabète de type 2 est même l'affection de longue durée la plus importante dans notre pays avec 3 600 000 personnes. Et il coûte de plus en plus cher à l'assurance maladie. La Cour des comptes alerte cette semaine sur la prise en charge de cette maladie chronique. Elle a coûté à la collectivité plus de 10 milliards d'euros en 2022. Un chiffre en hausse de près de 35% par rapport à 2015. Parce que nous mangeons mal et que notre population vieillit. La Cour fait des recommandations, on y viendra, mais l'idée, c'est d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Mieux détecter, alerter pour donner de bonnes habitudes avant d'en arriver à des situations d'obésité qui aggravent encore le risque. Alors si vous souffrez de diabète de type 1 ou 2, témoignez, racontez-nous votre quotidien rythmé par la surveillance de votre taux de sucre. On connaît l'injonction bouger, manger. Comment l'appliquez-vous? Avez-vous été bien accompagné pour changer de mode de vie? Le téléphone sonne ce soir pour les diabétiques.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bienvenue à vous Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je vous appelais juste pour vous dire, parce que j'ai entendu le lancement de l'émission qui mettait très très proche le diabète de type 1 et le diabète de type 2 en indiquant ensuite que le sucre était un problème en France. Je voulais juste repréciser que le diabète de type 1 n'est pas du tout un problème lié au sucre, en fait. La maladie du diabète de type 1 est un mauvais fonctionnement du pancréas, puisque c'est une maladie auto-immune. Elle n'est absolument pas liée au fait de mal manger, de mal se nourrir. Le sucre est fondamental pour quelqu'un qui est diabétique de type 1. Il est vital. Et donc, il n'y a pas de problème avec le sucre. Le diabète de type 2, en revanche, est un problème lié à mauvaise alimentation généralement.
Absolument.
Le diabète de type 1 est en général attrapé par, enfin, est déclenché chez l'enfant ou le jeune adolescent généralement. Donc des personnes qui n'ont pas encore de gros problèmes de mauvaise alimentation. Et c'est super stigmatisant parce qu'on a souvent tendance à amalgamer les deux maladies, alors que ça n'a absolument rien à voir. Elles ne devraient pas s'appeler toutes les deux diabètes.
C'est ce qui vous a fait réagir. Alors je précise qu'effectivement, j'ai globalisé, non mais vous avez raison, mais d'ailleurs on allait y venir. Hein. De toute manière, on allait démarrer l'émission là-dessus. J'ai volontairement globalisé parce que le diabète de type 1, ça représente 400 000 personnes et le diabète de type 2, celui qui est, où le sucre est vraiment responsable, ça représente 3 600 000 personnes, c'est-à-dire l'écrasante majorité. Mais vous avez bien fait d'intervenir, Sophie. Merci. Bonsoir Bruno Guercy.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur des universités, vous dirigez le centre d'endocrinologie de diabétologie du CHRU de Nancy. Nous sommes en ligne avec Coralie Alabert. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, en duplex plutôt des locaux d'Isidro Mardèche, que l'on remercie au passage. Donc, Coralie alias Coco and Poddy sur Instagram. Vous êtes une patiente experte devenue créatrice de contenu et vous nous faites partager votre quotidien en tant que diabétique de type 1, justement. Et bonsoir aussi à Jean-François Thébault.
Bonsoir.
En ligne aussi avec nous, vice-président de la Fédération française des diabétiques et médecin spécialisé en cardiologie et en diabétologie. On va commencer peut-être par vous, professeur Guercy. Elle nous a bien expliqué, au fond, Sophie, la différence entre le diabète de type 1 et celui de type 2.
Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est un excellent résumé scientifique, médical, pour faire la différence entre deux pathologies qui ont le même nom, mais qui n'ont pas du tout le même mode de révélation, à la fois en termes d'âge, puisque le diabète de type 1 survient très jeune, comme ça a été rappelé, un pic de fréquence aux alentours de 13-14 ans. C'est une maladie auto-immune, donc une altération du pancréas qui sécrète l'insuline, c'est la seule hormone qui fait baisser le taux de sucre. Et donc ce diabète de type 1, 300 000 à 350 000 patients en France, se distingue vraiment du diabète de type 2 qui, lui, survient plutôt après 45 ans, quoique maintenant on voit beaucoup de patients diabétiques de type 2 de plus en plus jeunes, liés aussi au mode de vie, à l'augmentation de la surcharge pondérale et de l'obésité, notamment chez les plus jeunes. Et là, c'est plutôt un problème à la fois d'hygiène de vie, on va dire, au sens large, de sédentarité, de malbouffe, entre guillemets.
Mais il y a un facteur génétique, quand
mais
même,
alors,
aussi.
On a évidemment un facteur héréditaire. Je dirais plutôt héréditaire, parce qu'il n'y a pas de gène identifié du diabète de type 2. C'est plutôt plusieurs gènes qui, sans doute, sont responsables de la survenue du diabète de type 2, qui font le lit, mais qui arrivent sur un comportement alimentaire ou une sédentarité beaucoup trop forte, et ça survient beaucoup plus tard. Ce sont en effet des maladies différentes.
Alors, on va commencer par le diabète de type 1, Coralie Alabert, puisque c'est votre cas. Elle nous disait tout à l'heure, l'auditrice, c'est stigmatisant.
Tout à fait, effectivement, c'est vrai que les amalgames et les préjugés sur la différence entre les diabètes nous collent un peu à la peau. C'est vrai que cette image de personne en surpoids qui a bien mérité sa condition, c'est une réalité. Et l'impact de tout ça, c'est que aujourd'hui, on a des personnes diabétiques qui n'osent pas passer notamment sous pompe à insuline ou sous capteur de glycémie parce que c'est stigmatisant. Et effectivement, c'est une vraie réalité aujourd'hui quand on vit avec un diabète. Et donc on précise bien les types de diabète. Et je voudrais vous partager une image qui est assez parlante quand on explique la différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2. C'est l'image d'une petite usine, en fait. Le pancréas est une petite usine. Dans le cadre du diabète de type 1, l'usine est complètement fermée et ne fonctionne absolument plus. Alors que dans le cadre du diabète de type 2, l'usine est ouverte, mais les travailleurs sont là à moitié. Et pour les travailleurs restants, ils sont un peu mal en point. Donc l'insuline qui sort de cette usine, elle n'est pas de très bonne qualité, donc elle se fixe moins bien dans le corps. Mmh. Voilà. Et donc ça, c'est une différence qu'on essaie de partager, parce que c'est pas du tout la même gestion de la pathologie.
Alors justement, oui, professeur Guercy, vous vouliez intervenir.
Oui, non, je voulais rajouter que un point vraiment essentiel qui est évoqué ici, c'est le diabète de type 1, c'est un déficit, c'est-à-dire une carence totale en insuline. Donc il faut, à l'évidence, agir très vite. D'ailleurs, la révélation de ce diabète de type 1 est souvent assez explosive, parfois sous un mode de coma diabétique. Et donc ça nécessite de mettre de l'insuline immédiatement pour corriger ce déficit complet du pancréas dans sa capacité de produire de l'insuline. Et comme ça a été rappelé sur l'image de l'usine, dans le diabète de type 2, une image qui est très bonne. Finalement, l'usine fonctionne, on a une insuline qui est quand même produite en quantité insuffisante et qui en plus ne fonctionne pas bien parce que tous les organes de l'organisme ne la reconnaissent pas bien. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Mmh, mmh. Donc ce sont quand même deux pathologies différentes. Et donc ça explique aussi pourquoi le patient diabétique de type 2, pour une minorité d'entre eux, sont sous insuline et bénéficient plutôt d'une approche comportementale, diététique, de lutte contre la sédentarité et de comprimés ou d'injections non insuliniques.
Coralie Alabert, c'est une charge mentale d'être diabétique de type 1.
Ah, tout à fait, et c'est vraiment le point sur lequel je voudrais appuyer. Alors, on a souvent qualifié le diabète comme une maladie invisible. Elle devient un peu plus visible avec l'apparition des capteurs et des pompes à insuline. Mais vraiment, je pense que 80% de la maladie se passe au niveau mental. Il y a une étude intéressante de IDF, International Diabetes Federation, qui est sortie fin d'année dernière, qui a interrogé plus de 1800 patients diabétiques, alors type 1 et type 2, et 77% d'entre eux reportaient souffrir de troubles soit anxieux, de dépression ou encore de troubles du comportement alimentaire. Mmh. C'est-à-dire que gérer un diabète, c'est un petit peu comme avoir un nouveau-né. Il peut se mettre à pleurer à tout moment, c'est-à-dire la pompe peut sonner, on peut faire une hypoglycémie à tout moment, etc. Donc avec l'accès aux nouveaux traitements, notamment la boucle fermée.
Alors, parlez-nous de la boucle fermée parce que moi je ne connais pas.
Bien sûr. Alors déjà, peut-être pour distinguer, une personne diabétique de type 1 porte en général deux dispositifs. Le premier, c'est la mesure de la glycémie. Oui. En général, c'est des petits ronds blancs que vous voyez.
C'est des espèces de patchs.
C'est des capteurs. C'est ce sont des capteurs. Des capteurs qui mesurent le taux de sucre sous la peau.
D'accord. C'est ça, tout à fait. Donc ce premier appareil nous envoie une information qui nous permet d'adapter les doses d'insuline à injecter. Mm-hmm. Et cette insuline, elle s'injecte diabète de deux manières, soit par stylo, donc par piqûre, ou soit par pompe à insuline. Mmh. Aujourd'hui, la vraie révolution dans le diabète de type 1, en tout cas moi j'ai un diabète de type 1 depuis 20 ans, donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 9 ans et je considère que c'est la deuxième grande révolution que je connais dans ma vie, c'est l'apparition de la boucle fermée, donc c'est un peu la connexion entre le capteur de glycémie et la pompe à insuline. C'est-à-dire que la pompe à insuline va récupérer les informations du capteur de glucose et va ajuster en temps réel l'insuline injectée. D'accord. En revanche, ce n'est absolument pas magique. Ce n'est pas la guérison. Et je tiens.
Non, c'est juste de la haute technologie. Exactement. Pour vous faciliter le quotidien, en fait.
Exactement. Mmh. Disons que ça nous permet de passer plus de temps dans la cible glycémique. Parce que notre enjeu, en effet, on est toujours sur un fil. L'idée, c'est de toujours adapter la quantité d'insuline pour rester dans cette plage cible glycémique. En fait, une personne diabétique de type 1 est un peu en mode manuel, alors qu'une personne qui ne souffre pas de diabète est en mode automatique. Mmh. Nous, on est dans cette gestion permanente et dans ces calculs permanents. Mmh. Calcul de glucides, calcul de doses à injecter. Et la glycémie, c'est pas une relation monofacteur avec ce que l'on mange. Tout impacte notre glycémie. Mmh. Les hormones, le stress, la météo, voilà, les vagues de chaleur. Je peux vous dire que niveau mental, ça rajoute un lot de questions assez conséquents. Mais voilà.
Bon, Jean-François Thébault, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération française des diabétiques et vous souhaitiez intervenir justement sur ce diabète de type 1.
Oui, non, je voulais intervenir parce que ça m'attriste un petit peu ce que j'entends de faire cette différence et qui est très stigmatisante pour les diabétiques de type 2 qui semblent être coupables de leur maladie alors que les diabétiques de type 1 seraient innocents. En fait, on a une maladie commune avec des mécanismes très différents et surtout des âges un peu différents. Donc, ce qui pose effectivement le problème parce que c'est différent d'avoir une maladie étant enfant ou de l'avoir étant adulte. Mais ceci étant dit, on a les mêmes complications, on a les mêmes stigmatisations et vous venez d'en avoir pas mal d'exemples. On a les mêmes troubles du comportement alimentaire, les mêmes, et on a le même fardeau de la maladie. Et il y a plus de patients diabétiques de type 2 sous insuline au total que de diabétiques de type 1. Donc, c'est une maladie globale. Et à la Fédération, on se bat pour la reconnaissance et pour l'acceptation au niveau collectif des deux formes, quelles qu'elles soient, de la même manière et pour la non-discrimination de l'un ou de l'autre.
Oui.
Il ne faut pas faire de différence et de hiérarchie entre les pathologies. On comprend très bien la différence qu'il peut y avoir entre une maladie qui nécessite un traitement substitutif à vie et déclenché jeune, avec tout ce que ça comporte, par rapport à une maladie qui s'installe plus progressivement et très silencieusement, et pour lequel on ne cesse de stigmatiser un peu les patients en insistant sur leurs responsabilités, alors que, comme l'a très bien dit tout à l'heure le professeur Guircy, il y a énormément de facteurs héréditaires qui font que, même quand on est mince, on peut avoir du diabète. Vous voyez, ce n'est pas uniquement la faute des patients. Donc ça, c'est ça que je voulais dire, pour bien dire que...
Oui.
En plus, les diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2 vont avoir à terme les mêmes complications d'assurance. Donc c'est vraiment un combat commun qu'on doit mener.
Mmh. On va prendre Alexandre qui est au standard. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien ?
Très bien.
Voilà, donc moi je suis diabétique de type 1 depuis 37 ans et cette année j'ai eu un quintuple pontage coronarien dont le premier facteur était le diabète. Mmh. Alors, mon intervention ici pour dire que évidemment, il ne faut pas mettre en concurrence les diabètes de type 1 et les diabètes de type 2. On est tous malades. Le diabète, c'est le même symptôme d'avoir un taux de sucre.
C'est une maladie chronique.
Voilà, c'est une maladie chronique en plus. Maintenant, quand même, le diabète de type 2, il est généralement plus lié à des comportements, c'est-à-dire que moi je serais parfaitement, je serais un moine au niveau du sucre, j'aurais quand même un taux de sucre
bien sûr.
Qui s'élèverait naturellement. Donc, moi ce que je voulais dire ce soir, c'est que la sécurité sociale, le système de santé français qui est parfait, qui m'a permis d'avoir une vie quasi normale jusqu'à 54 ans et d'être très bien pris en charge pour mon cœur cette année, a quand même des difficultés à se financer. Et je ne comprends pas très bien pourquoi on tergiverse à mettre en place une taxe forte sur les produits extrêmement sucrés,
bah on va y venir.
Qui en plus vont fortement impacter des jeunes enfants dont j'ai pu constater avec mon âge de 54 ans que le niveau d'obésité de la population française, je serais étonné que certains enfants en très très fort surpoids ne développent pas prochainement un diabète de type 2. Donc moi je suis assez sensible à ça et au fait que un peu comme les pollueurs-payeurs, les industriels qui s'enrichissent en vendant du sucre qui est addictif ne fassent pas une contribution conséquente à la sécurité sociale.
Absolument. Merci Alexandre. Et c'est d'ailleurs l'une des pistes, l'une des recommandations qui a été faite avant-hier par la Cour des comptes. La Cour des comptes dit, en gros, ça nous coûte beaucoup trop cher. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce que la croissance est beaucoup trop rapide. Ça représente 5% du budget de l'assurance maladie.
À peu près, maladie. Oui.
Professeur Guercy.
9 à 10, voire 11 milliards pour les soins liés uniquement à la gestion du diabète. Mais si on prend en charge l'ensemble des soins apportés aux personnes qui sont atteintes de diabète, on arrive facilement aux alentours de 20 milliards. Même la Cour des comptes pousse jusqu'à 35 milliards, tenant compte de tout ce qui est vaccination, politique de santé X ou Y et consommation de soins. Donc c'est un coût phénoménal et c'est la seule d'ailleurs...
Et surtout en très forte augmentation rapide.
C'est l'affection de longue durée qui a la plus progressé sur les 5 à 10 dernières années par rapport à l'ensemble des affections de longue durée qui ont progressé de 2 à 4% en termes de dépenses de santé. Là, on est plutôt sur du 4,5 à 5%. Donc, ça coûte très cher à la société. Je voudrais juste dire un petit mot parce que qu'on soit très clair, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas d'opposition.
On sent que c'est un sujet extrêmement sensible entre diabète de type 1 et de type 2.
Exactement. Je voudrais redire deux choses. En effet, les complications sont à quelques... détails près, globalement les mêmes. Oui. Elles sont liées quand même à l'hyperglycémie chronique, mais aussi à d'autres facteurs tels que l'hypertension, l'excès de cholestérol ou de triglycérides. Et puis le fardeau lié à la maladie, il est très fort. Évidemment, il n'est pas à gérer de la même façon chez un adolescent qui révèle un diabète, au moment d'une période de puberté, avec la reconnaissance du soi qui est compliquée, l'image de soi, par rapport à un patient qui a 45 ou 50 ans. Mais l'annonce de la maladie diabète de type 2 à un patient de 45-50 temps. Nous, on fait des consultations d'annonce parce que c'est un choc pour le patient. Donc, je voudrais rassurer Jean-François Thébault qu'il n'y a pas d'opposition du tout. Simplement, c'est des prises en charge quand même un petit peu différentes et c'est, en termes de nombre de patients, pas du tout le même problème. Et je dirais que le fardeau, pour rassurer notre auditrice, notre patiente qui a évoqué ça tout à l'heure, un peu par excès de, peut-être de confiance, on a pensé que par rapport à ce qu'elle expliquait sur les boucles fermées, toute la technologie,
oui,
ça allait lever le fardeau lié...
Voilà, Coralie.
Elle est toujours là. Ça allait lever le fardeau lié à la pathologie. C'est faux, en fait. On y a cru un petit peu en pensant que ça allait lever les freins, que ça allait rendre... une sorte d'insouciance, on a même osé utiliser ce mot-là. On s'est trompé, il faut bien reconnaître. Ça rend d'énormes services, puisque c'est la première fois quand même qu'avec ces outils, on arrive à équilibrer le diabète, à faire rentrer dans des objectifs, mais sans augmenter le risque de pathologie aiguë que sont les hypoglycémies, qui sont les complications les plus fréquentes. Donc, on équilibre le diabète et on réduit aussi le risque d'hypoglycémie. C'est la première fois qu'on voit ça. Et c'est au-delà même des espérances qu'on se faisait en termes de cliniciens et de recherche.
Coralie Alabert.
Oui, mais je voulais intervenir sur la différence, diabète de type 1, diabète de type 2. On est tout à fait clair sur le fait que l'idée n'est pas du tout de stigmatiser le diabète de type 2. Et moi, je voudrais rajouter, je pense que c'est pas non plus évidemment que l'environnement et l'alimentation jouent un grand rôle, mais c'est une maladie multifactorielle. Quand on voit l'adoption de la loi du plomb cette semaine, je pense que ça aussi contribue à développer des maladies endocriniennes et ça ajoute des facteurs de risque au développement du diabète de type 2. Et dès qu'on parle diabète, on évoque ce lien au sucre et en fait ça ne nous aide pas pour y voir plus clair dans la pathologie. Et il y a quand même des distinctions dans la gestion des deux pathologies. Diabète de type 2, on commence quand même avec un traitement médicamenteux, alors qu'un diabète de type 1, on est directement aux injections d'insuline et c'est pas du tout la même gestion. Et je voulais ajouter également dans les investissements qui sont faits même dans les budgets de l'État, c'est que vous pouvez investir autant que vous voulez dans des programmes sportifs. ça ne guérira jamais le diabète de type 1. Mmh. En revanche, c'est un véritable levier pour les diabétiques de type 2. Mmh. Donc voilà, il y a aussi...
Les diabétiques de type 2 sont de plus en plus nombreux et de manière de plus en plus rapide, j'imagine, professeur Garcia.
Le diabète de type 2, c'est quand même lui qui a principalement augmenté en termes de prévalence, donc de nombre de patients. Même si on a une petite augmentation des patients qui révèlent un diabète de type 1 entre l'âge de 0 et 4 ans, donc on a plus de très très jeunes qui développent un diabète de type 1 auto-immun, donc dans la petite enfance, mais c'est le diabète de type 2 qui a fait augmenter la prévalence du diabète sur les dernières années.
Jean-François Thébault.
Oui, alors je voulais intervenir sur deux choses. On est là sur des termes techniques, prévalence, incidence, etc. Si le nombre de diabétiques de type 2 augmente, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que nous vivons plus vieux. C'est parce que les traitements qu'on nous donne avant, on mourait plus jeune.
C'est vrai que c'est lié au vieillissement, mais c'est lié mais Monsieur Thébault, c'est lié aussi à l'obésité quand même.
Bien sûr.
Ah bah oui.
C'est pas lié au vieillissement. Alors, laissez-moi continuer s'il vous plaît. C'est pas lié au vieillissement en tant que tel. C'est lié à l'augmentation de la durée de vie des patients diabétiques.
Oui, on est d'accord.
Regardez les chiffres de l'assurance maladie. L'incidence des diabétiques de type 1, de type 2 est effectivement inférieure à l'augmentation du stock de patients qui vivent plus longtemps. Mais on va pas se battre sur les chiffres. Ce qui est important,
Qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu là et sortir sur les types 1 ou type 2. Non, mais juste laissez-moi parler. La Cour des comptes là fait 6 recommandations et elle dit qu'il faut notamment interdire plus largement la pub sur les produits gras, sucrés, salés, élargir l'assiette de la taxe sur les boissons sucrées à tous les produits à sucre ajouté. Ça, c'est fameuse taxe soda dont nous parlait notre auditeur.
Et cette taxe soda, elle a rapporté en 2023 443 millions d'euros, j'ai vérifié. Si ça rapporte autant d'argent, c'est que c'est finalement peut-être pas si efficace que ça, parce que ça veut dire que ça continue à être consommé, puisque ça rapporte de l'argent à l'État. Alors, c'est une bonne chose peut-être pour l'État,
mais
c'est
soda,
pas...
est-ce que vraiment
mais
elle peut
pas
être
suffisamment dissuasive, voilà.
Ou alors, il faudrait doubler
le nombre de kilos que l'on met de sucre dans les hectolitres, entre guillemets. Vous prenez un litre de coca, il y a 100 grammes de sucre dans un litre de coca, ça fait 25 morceaux de sucre, vous voyez les morceaux que l'on boit de 4 grammes. Donc, ça fait quand même un paquet. Donc, si la taxe soda, on y mettait... une taxe beaucoup plus importante, qui est quand même graduelle entre le 5 à 8 ou plus de 8 kilos par hectolitre. On va avoir pour des boissons peu sucrées une augmentation de 4 centimes au litre, c'est rien. Et si on regarde le coca, on arrive par exemple à 35 centimes au litre. Mais est-ce suffisamment dissuasif? Je ne le pense pas.
En fait,
et on évoquait le Nutri-Score tout à l'heure. Le Nutri-Score...
C'est l'une des pistes.
Mais oui, c'est une piste parce que interdire la publicité sur les produits qui sont en D ou en E, c'est assez simple, ça représente 30% des produits. Ça veut dire qu'il y a 70% qui rentrent de le A, le B ou le C sur plus de 25 000 produits alimentaires qui ont été testés. Donc, interdire la publicité sur le D et sur le E, ça a du sens. On a bien interdit la publicité sur le tabac depuis 89. Donc, il y a des choses à faire sur le plan de la publicité.
On va revenir au standard avec Guillaume. Bonsoir, Guillaume.
Oui, bonsoir. Je me permettais de rebondir. Alors, j'ai aussi un diabète de type 1. Si.
Oui.
Voilà. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, moi, je l'ai déclenché à 35 ans. Donc, j'en ai 59, vous voyez. Et puis, j'ai une de mes filles qui l'a déclenché à 6 ans. J'ai pu voir un petit peu l'approche un peu différente entre quelqu'un adulte qui a la maladie et quelqu'un un jeune enfant. Mais je pense qu'en fait, moi, ce qui m'a surtout accompagné, c'est la reprise de confiance. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui faisait des marathons avant d'avoir un diabète de type 1. Et je me suis dit, en fait, est-ce que je serais toujours capable de faire du sport après mon diabète? Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et qui me permet de mieux équilibrer aussi le fait de faire du sport au quotidien, du vélo, de la course à pied. Et c'est vraiment un message que je veux passer aux jeunes et moins jeunes qui font... Voilà.
Vous avez raison, parce que le sport, il est évidemment fondamental pour les diabètes de type 2, mais il l'est aussi pour les diabètes de type 1, juste Coralie Alabert.
Alors évidemment, ça va aider dans la régulation glycémique, mais la réalité aujourd'hui, c'est que faire une séance de sport, si c'était qu'une question de motivation, ça serait plus facile. Le problème, c'est qu'il faut donner confiance aux personnes diabétiques pour lesquelles il y a beaucoup de barrières mentales et notamment des barrières liées aux peurs que crée le diabète. C'est-à-dire que quand vous faites une activité physique... On n'ose pas, parce qu'en fait, on sait qu'on va consciemment vers une hypoglycémie, donc ça demande de l'expérimentation. C'est-à-dire que pour trouver la bonne les bons paramétrages pour une séance de sport, ça demande plusieurs essais.
Le professeur Garcie n'est pas d'accord.
Voilà, je voudrais rassurer Coralie. Tout d'abord, corriger sport et activité physique, c'est pas tout à fait la même chose. L'activité physique est à préconiser évidemment chez tout patient et en particulier.
L'activité physique, c'est faire de la marche, par exemple.
L'activité physique, c'est aussi simple que monter les deux étages à pied plutôt que de prendre les ascenseurs, de descendre du tram une station avant la fin et faire, c'est globalement, on entend souvent ça, c'est 10 000 pas par jour. Donc c'est pas très compliqué, mais encore faut-il le faire. On a réduit notre degré d'activité physique de façon magistrale depuis un siècle. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que on a une augmentation de la surcharge pondérale et du poids un niveau qui est plus de 50% de la population française, c'est monstrueux.
Et il y a à peu près 18% de personnes 18% qui sont
de personnes qui sont en situation d'obésité et 40% ou 39% qui sont en situation de surcharge pondérale. Donc ça fait 50% de la population française, une personne sur deux qui a un problème de poids en France. Donc c'est pas venu de la faute des patients, c'est aussi de la problématique sociétale dans laquelle on vit, moins d'activité physique et une consommation moins bonne. Donc je voudrais simplement revenir sur Coralie et sur ce qu'elle disait sur l'activité physique et le sport. Les boucles fermées, ça peut permettre d'améliorer considérablement la gestion de l'activité physique et du sport. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites actuellement. On est de plus en plus performant, entre guillemets, sur le plan médical pour donner des conseils. Je ne dis pas qu'on règle tous les problèmes, mais on évite considérablement la survenue des hypoglycémies grâce à ces systèmes experts de boucles fermées dont elle a parlé avant.
Jean-François Thébault, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, parce qu'on parle beaucoup de thérapies non médicamenteuses et qui sont effectivement extrêmement importantes pour l'équilibre et pour le début. Mais il faut pas oublier les traitements. Et l'une des choses qui pêche, c'est que les patients n'ont pas forcément des traitements adaptés à leur pathologie. Et aujourd'hui, on a des molécules qui sont formidables.
Alors il faut qu'on y vienne.
Et qui permettent d'éviter ces complications cardiovasculaires, ces complications rénales. Et donc, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire et la prévention tertiaire, sans vouloir minimiser un instant l'importance de l'activité physique et de l'alimentation. Mais c'est aussi un problème extrêmement important que les bons patients aient les bons traitements, y compris les diabétiques de type 1, quand ils commencent à avoir un petit peu de bouteille, comme on dit, et qui risquent d'avoir les mêmes complications que les autres. C'est les mêmes traitements qui peuvent les empêcher d'avoir ces complications. Et ça, c'est extrêmement important. Et il est extrêmement important d'aller vers ces patients, notamment quand ils cumulent des facteurs de risque. Quand vous cumulez l'hypertension artérielle, du tabagisme, on n'a pas parlé du tabagisme, qui est extrêmement important. Et les diabétiques de type 1 fument beaucoup plus que les diabétiques de type 2.
39% de diabétiques de type 1 fumeurs contre 13% de la population diabétique de type 2.
Voilà, et c'est un facteur de risque qui entraîne, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, des problèmes cardiovasculaires et des pontages coronariens. Donc, il ne faut pas uniquement centrer tout le traitement sur exclusivement l'alimentation et l'activité physique.
C'est complémentaire,
L'arrêt du tabac, les traitements et les différents traitements, les surveillances, le dépistage, la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire.
Oui, absolument.
C'est extrêmement important.
Professeur Garcie.
On a deux points de réponse rapides. Premièrement, on a quand même déjà un certain nombre de traitements qui sont sur le marché, j'allais dire, et qui sont remboursés.
On parle de l'Ozempic ?
Non, on parle de la classe des incrétines, les agonistes du récepteur GLP-1. Ce sont des traitements injectables qui ne sont pas de l'insuline et qui marchent très bien, qui sont remboursés pour la majorité d'entre eux, qui font perdre du poids, qui améliorent l'équilibre glycémique global et qui protègent et le cœur et le rein. Mmh. Et on a également une autre classe de médicaments qui s'appelle les gliflozines, qui sont également disponibles et remboursés. Il y a simplement un problème, c'est que ces médicaments qui sont disponibles ne sont pas toujours utilisés et prescrits aux bons patients. Recommandations qui sont données par la Haute Autorité de Santé ou par les sociétés savantes, et comment ça ruisselle jusqu'aux prescripteurs qui voient essentiellement les patients diabétiques de type 2, c'est-à-dire le médecin généraliste, 90% d'entre eux sont vus par les généralistes. Malheureusement, 25% des patients diabétiques de type 2 ont ce type de molécules. Donc, il y a sans doute déjà à cranter un peu pour mettre ces molécules à un plus grand nombre de patients. Alors, ce que disait Jean-François Thébault est juste aussi. Il y a quand même des molécules nouvelles qui sont arrivées, qui sont destinées à la prise en charge de l'obésité ou du diabète de type 2, mais qui ne sont pas remboursés aujourd'hui.
Qui agissent sur la glycémie et sur l'appétit, c'est ça ?
Qui agissent sur le... Alors, ça dépend si on se place dans le contexte de l'obésité ou du diabète de type 2, mais qui agissent et sur la perte de poids, le contrôle alimentaire, mais également sur la glycémie.
C'est-à-dire le Wegovy ?
Alors, il y a Wegovy, et puis il y a Mounjaro, donc ce sont les deux molécules.
On en parle beaucoup quand même.
Oui,
en
on en parle beaucoup, bien sûr.
Hein.
Mais ce sont les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui, qui ne sont pas remboursés, qui sont disponibles depuis l'année 2024 et qui ne sont pas remboursés, qui coûtent quand même relativement cher, puisque beaucoup de patients rechignent, entre guillemets, mais on les comprend, vu le tarif, c'est extrêmement important. On est dans l'ordre de 300 à, jusqu'à entre 270 jusqu'à 395 euros par mois.
Oui, ce qui est quand même un énorme budget. Et vous pensez qu'ils devraient être remboursés, ces médicaments-là ?
Alors, c'est une question de fond. À ce jour, ils n'ont pas été considérés par la commission de transparence, qui est un organisme de la Haute Autorité de Santé, pour avoir suffisamment de preuves de l'efficacité pour être remboursés. C'est ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu. Je pense que dans les années qui vont venir, en ciblant les populations qui en tirent le plus grand bénéfice, parce que ça ne s'applique pas à toutes les personnes qui vivent avec, en situation d'obésité, ni à tous les patients diabétiques de type 2, mais une certaine catégorie de patients devrait bénéficier de ces molécules dans un délai qu'on espère le plus court possible. Les dossiers sont retravaillés, sans doute resoumis prochainement, pour que, avec des nouvelles données d'études, on puisse faire bénéficier un certain nombre de patients de ces nouvelles molécules, de ce fameux Wegovy et de ce Mounjaro.
Jean-François Thébault.
Oui, alors quand on a la chance d'être diabétique et qu'on est gros, on a droit à ces molécules, puisqu'ils sont pris en charge, et ils sont remboursés puisqu'on est diabétique.
Non, ils ne sont pas remboursés. Les deux dont je viens de parler, ils sont... Wegovy et Mounjaro ne sont pas remboursés.
Non, mais l'Ozempic est remboursé, le Trulicité est remboursé.
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les molécules GLP-1
sont remboursées. L'Ozempic, c'est un antidiabétique. Alors, il lutte pas contre l'obésité, c'est pas pareil.
L'Ozempic est un antidiabétique.
C'est la même molécule, mais pas le même dosage.
L'Ozempic est un antidiabétique qui joue sur l'obésité et sur le diabète de type 2. Ce n'est pas au même dosage, c'est 1 mg. Le Wegovy, c'est 2,4 mg. Il a été développé uniquement dans un objectif de traitement de l'obésité.
Ceci dit, aux États-Unis, l'Ozempic 2 mg existe pour le diabète. Donc c'est un problème de marketing. Ce que nous, on trouve à la Fédération un peu anormal, c'est que, en fait, ces molécules sont soit des traitements des diabètes et doivent être pris en compte, soit des traitements de prévention primaire du diabète en traitant l'obésité. Et il nous paraît totalement anormal que ces molécules ne soient pas remboursées. Ceci dit, il faut dire les choses comme elles sont. Les exigences tarifaires des industriels ne sont pas raisonnables sur ces molécules. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas remboursés. Tout ce que nous espérons, que ce soit nous ou les associations qui représentent les personnes en situation d'obésité, c'est qu'il y ait des négociations tarifaires qui aboutissent pour que tous les patients qui ont besoin de ces molécules puissent avoir ces molécules qui sont indispensables à leur état.
Absolument.
Aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas normale. Même molécule qui n'est pas au même prix, même molécule qui n'est pas au même prix pour deux indications différentes, ça ne nous paraît pas acceptable.
Allez, on repart au standard. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Alors, je suis étonnée qu'on n'ait pas parlé un petit peu du contexte socio-économique concernant l'explosion du diabète de type 2.
Bien sûr.
J'habite une ville pauvre, j'habite Creil, donc explosion de kebab, les maires donnent trop l'autorisation aux fast-food, aux restaurants de pouvoir s'installer. Donc, si vous voulez, les jeunes n'ont pas d'argent, donc ils se reportent sur cette alimentation. De plus, c'est le seul moyen de se faire plaisir, d'acheter un peu de soda, d'acheter des bonbons, d'acheter un peu de chips pour des jeunes qui ne partent pas en vacances, qui n'ont pas beaucoup de loisirs, même pas du tout de loisirs culturels. Donc je pense que...
Il y a un côté social et vous avez raison de le souligner et il fallait qu'on aborde cette question. Je vous remercie. Je rappellerai juste un chiffre. Le risque de développer un diabète de type 2 est près de 3 fois plus élevé chez les 10% les plus modestes par rapport aux 10% les plus aisés.
Oui, et puis alors, complètement d'accord. Et surtout, il faut rappeler que on a surtout une augmentation du problème de surcharge pondérale et de l'obésité chez les plus jeunes. Les 15-24 ans, ça a été multiplié par 4 entre 1997 et 2024. Alors que dans le même temps, l'obésité a augmenté d'un facteur 2 chez les sujets, c'est chez les personnes d'âge mûr. Donc, c'est les plus jeunes qui payent le lourd tribut de ce problème.
Donc, raison de plus pour prévenir, parce que c'est ce que cherche à dire la Cour des comptes.
Bien sûr,
la faire publicité,
du préventif.
Mais ça veut dire être pris en charge aussi, dès qu'on voit qu'on a potentiellement un problème. Il faut peut-être mieux le détecter aussi, le diabète de type 2 au départ. Parce que quand on arrive, on est déjà dans une situation assez compliquée.
Il y a des campagnes de dépistage qui se font régulièrement tous les ans, plus spécifiquement au moment de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre. Mais globalement, il y a des programmes et des actions de dépistage qui sont faites en pharmacie. C'est des choses qui peuvent se renforcer, qui sont faites auprès du grand public, dans les grandes surfaces, etc. Donc ça, et il y a également la responsabilité populationnelle qui se met en place à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en lien entre les structures hospitalières et surtout la médecine de ville, donc un lien ville-hôpital.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que les médecins, c'est la question que j'allais vous poser, les médecins généralistes, de toute façon, tout commence par eux,
ils sont au cœur du système.
Est-ce qu'ils peuvent travailler en commun avec d'autres disciplines pour aider tous ces gens-là à changer leur mode de vie, à changer leur hygiène de vie, j'ai envie de dire?
Alors, il faut, et c'est la proposition de la Cour des comptes, il faut potentiellement une prise en charge de ces premières étapes d'aide à l'éducation thérapeutique sur la lutte contre la sédentarité, la reprise d'une activité physique adaptée, et puis des conseils nutritionnels. Ceci, c'est une proposition, notamment d'exonération des tickets modérateurs par la Cour des comptes.
C'est-à-dire le reste à charge.
Voilà, le reste à charge, qui souhaite scinder peut-être la LD8. C'est une vraie révolution, si ça se fait. C'est en tout cas une vraie question. Proposant pour les personnes à qui un diabète est révélé en première intention, d'une prise en charge plutôt diététique et d'activité physique, plutôt que de mettre le paquet tout de suite
sur les médicaments.
Voilà. Donc, et surtout
faut
une prise
changer,
en charge.
Il
parce
faut
que...
arriver à changer de mode de vie.
Exactement, parce que ce sont quand même les éléments qui sont rappelés comme première ligne thérapeutiques et qui sont malheureusement pas prises en charge sur le plan financier. Quelques exemples néanmoins, PrescriMove, qui est une action développée par l'Agence régionale de santé sur le Grand Est, c'est la possibilité d'accéder à des éducateurs en activité physique adaptée, avec un bilan de santé et la remise en selle, entre guillemets, sur une activité physique adaptée rapidement avant de repartir sur une activité sportive plus large.
Jean-François Thébault, changer notre mode de vie, on est d'accord, c'est ça en fait, le cœur du sujet aussi.
C'est sûr, mais ce n'est pas un problème médical, c'est un problème de société. C'est un problème, et la prévention primaire dont on parle, elle doit être faite par tous les niveaux de responsabilité de la société. Ça doit être fait dès l'école, par l'éducation nationale, puis plus tard à l'enseignement supérieur. Ça doit être fait au niveau de l'aménagement du territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'alimentation, c'est surtout la publicité qu'il faut faire. Vous avez parlé de la taxe soda, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est une moins-value importante pour que les produits sains soient à disposition, soient présentés en tête de gondole par rapport aux produits nocifs, aux produits ultra-transformés. Il faut que l'aménagement du territoire permette d'avoir des voies de circulation de vélo, des bancs pour les petits vieux comme moi, pour quand on va se promener, marcher, on fait nos 5000 pas, on fait pas 10 000, on puisse s'arrêter en cours de route pour se reposer.
Oui.
C'est vraiment une affaire de tout le monde. Et je crois que ça passe pas vraiment pas par les médecins, parce que c'est des gens qui sont pas malades encore et que les médecins ne voient pas. En revanche, tous les corps sociaux...
Le médecin généraliste peut détecter quand même quelqu'un qui commence à être en surpoids.
Il ne voit pas les gens malades, mais si la personne qu'il voit a une surcharge pondérale ou en situation d'obésité, qu'il a une hypertension artérielle ou qu'il a potentiellement des personnes diabétiques de type dans la famille, on peut faire un acte de prévention à l'échelle de la médecine générale.
Voilà, c'est quand même la première vigie, le médecin généraliste. Merci à vous tous. Merci Coralie Alabert de nous avoir si bien parlé du diabète de type 1. On fait vraiment la différence. Merci à vous, professeur Guercy. Merci aussi à Jean-François Thébault.